Cette semaine, à Vidéo Terreur, on se penche sur le film de vampire.
Vidéo Terreur est un podcast sur les films d'horreur avec deux passionnés, Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. Cet épisode est produit par la Télé-Duo du Lac.
Cette semaine à Vidéo Terreur, on va parler des films de vampires. Et avec moi pour en parler, notre chroniqueur en film d'horreur favori, M. Jimmy Francoeur. Salut Jimmy.
Salut, ça va bien?
Ça va bien toi?
En forme, toujours.
Dans la saison 1, on avait parlé des films Universal où se retrouvaient entre autres les premiers Dracula avec Bela Lugosi, etc. Mais le film de vampire n'est pas arrêté là. C'est un classique. Là. Tout le monde a une idée. Oui, il y a Dracula, mais les vampires en général, ça a été associé à plein de genres. Là. Autant on part de Nosferatu puis on s'en va à Twilight, on peut parler de genres totalement différents.
Oh, tout à fait. Ben, t'sais, on peut justement, là, la mythologie du vampire, ben, d'ailleurs, précède le cinéma, même, je dirais, précède la littérature. On est dans le mythe, là, vraiment, même, si on remonte loin dans le temps. T'sais, si on peut regarder un peu la construction, je dirais, du mythe, c'est un peu ça qu'on va faire ensemble, regarder un peu comment le mythe du vampire s'est construit, parce que c'est comme, à une certaine période, dans le fond, chaque film inspire, puis les réalisateurs vont s'inspirer, je dirais, du film précédent. Mais t'sais, si on regarde un peu, bon, au niveau de la culture occidentale, t'sais, le vampire commence 1819 avec le premier roman, Le Vampire. Ensuite, on va avoir Varned le Vampire, puis Dracula en 1897, qui va camper, je dirais, un peu l'amorce, en tout cas, de la mythologie du vampire, là, avec Bram Stoker. Et la première adaptation, bon, comme tu disais tantôt, Nosferatu, 1922. Puis à ce moment-là...
J'aimerais te dire que je me suis rendu en Slovaquie au château où a été tourné Nosferatu, et c'est vrai que c'est glauque.
C'est comme une belle aventure.
Oui, c'est une belle aventure.
Puis, tu sais, comme tu disais, donc, le Nosferatu 1922, à ce moment-là, on est encore, je dirais, dans une conception du vampire purement horrifique. Tu sais, c'est un monstre, il n'y a rien d'enviable là-dedans. Puis on va voir au fil du temps, puis on va l'analyser ensemble, mais tu sais, au fil du temps, il va y avoir, je dirais, deux pôles, si on peut dire, qui vont se créer au niveau de la mythologie du vampire. Le premier pôle, bon, qui est le pôle rattaché à la mort, au vampirisme. Puis, il va y avoir une espèce de transition aussi qui va se faire où, je dirais, le vampire va avoir une particularité que peu de monstres vont avoir, celle d'avoir un peu quelque chose d'enviable. Parce qu'on parle de la vie éternelle, de la jeunesse éternelle. Et c'est un peu ce côté-là, je dirais, attractif qui va le rendre aussi ou charismatique, qui va aussi provoquer un autre pôle, un glissement vers, justement, bon, on va aller dans un extrême comme Twilight, où le vampire est devenu presque une espèce de prince charmant, immortel. Ouais.
Je dirais même dans Dracula, au départ, il y a ça, le côté romantique. Là. C'est une histoire d'amour, Dracula. Là.
Oui, tout à fait. Puis, en fait, je pense que justement, c'est pour ça que Bram Stoker, son œuvre là, avec Dracula, était aussi marquante. Parce que tous les éléments sont là-dedans. Puis, par la suite, en fait, ils vont être comme développés, exploités, augmentés ou dépendamment comment on veut jouer là-dessus. Effectivement, là, il y a toujours cette espèce d'ambivalence-là que on a moins, par exemple, bon, pas du tout avec les zombies. Là. Mais tu sais, je dirais même si on regarde certains films là, de momies, où bon, la Hammer, entre autres, la momie avait la capacité aussi de changer son apparence puis d'être un beau jeune homme, mais ça n'a pas accroché. Le vampire a réussi vraiment, comme je dis, à se positionner un peu entre ces deux pôles-là. Fait que, tu sais, au cinéma, par exemple, bon, avec Nosferatu, comme je dis, on est vraiment dans un... On campe le côté horrifique. Quand on va tomber, par exemple, avec Bela Lugosi, on commence, là, parce que Bela Lugosi, bon, vient d'Europe de l'Est, bon, toujours dans la Transylvanie, mais c'est un noble, il y a quand même un côté un peu charmant qui commence à s'installer, puis c'est on va voir un glissement, je dirais, graduel, là, qu'on va voir par la suite, bon, par exemple, avec en 1958, avec Horror of Dracula, avec Christopher Lee, où, bon, dans un premier temps, c'est le premier film, où on va voir vraiment des dents, là, des crocs, là, ce qu'on voyait pas avant, qui était davantage suggéré. Puis Christopher Lee va amener, je dirais, aussi une tension sexuelle là, qui va commencer à émerger. Là. Par exemple, on disait à une certaine époque que dans l'histoire du cinéma, les scènes justement où Dracula là, va mordre la jeune femme, c'est les premiers cris là, qui étaient le plus proche d'un orgasme. Là.
OK.
Fait qu'on voit qu'on a un glissement comme ça, je dirais, graduel dans le romantisme. Puis, bon, si on prend un film, là, 1979, Dracula de John Badham, avec la musique qui était faite par William, lui qui avait fait la musique de Star Wars, John
Williams.
Williams, excusez. Puis là, je dirais, on est plein pied dans le romantisme. Là. C'est le pendant, je dirais, de Dracula, de l'histoire originale, mais où le romantisme est poussé à l'extrême.
Parce qu'il y a beaucoup de films de vampires qui sont pas nécessairement très épeurants, mais on va chercher cette ambiance-là, un peu de glauque là, à travers des histoires d'amour. Hein.
Tout à fait. Puis c'est probablement un des éléments aussi qui fait, comme je dirais, que le mythe a une certaine durabilité parce que il y a quand même quelque chose d'un peu plus complexe, bon, tu sais, sans enlever rien aux zombies, où le thème de front, il n'y a rien de plus complexe, là, juste un mort qui se lève, qui mange les gens. Mais comme je disais, dans le vampirisme, on a quelque chose d'un peu, peut-être un peu plus nuancé. Puis, je dirais, tu sais, si on continue un peu dans la ligne du romantisme, on peut se rendre aussi, bon, avec Dracula de Coppola.
Oui, oui, qui est probablement le plus proche du roman, là.
Oui, oui. Puis, ce qui est intéressant, je pense que c'est le film a réussi à garder la double tension entre, je dirais, le romantisme, mais aussi l'horreur. Probablement aussi parce que, si on remarque dans son film, l'apparence aussi de Dracula change. Hein.
Oui.
Fait que ça a permis, au moment donné, je dirais, un peu de mettre le volume sur certains éléments à certains moments dans l'histoire. Mais, tu sais, on a toujours un peu le mythe qui se propage à travers deux extrêmes, là.
Depuis le début du cinéma, depuis, mettons, Nosferatu, est-ce qu'il y a eu des moments où on a moins eu de films de vampires? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y en a systématiquement beaucoup tout le temps.
Oui, effectivement, là, je dirais, il y a eu, je pense qu'on a toujours eu des films de vampires. Bon, comme on a déjà dit dans un épisode, la période creuse, habituellement, là, a toujours été à peu près des années 30, des années 60. Mais malgré tout, tu sais, Universal en a produit quand même plusieurs.
Oui, la fille de Dracula, le fils de Dracula, la maison de Dracula, etc. Là.
Tout à fait. D'ailleurs, tu parles de la fille de Dracula, c'est intéressant parce que, tu sais, un élément qu'on n'a pas encore nécessairement mentionné, c'est aussi, il y a toujours, ben, je dirais, dans le film de vampire aussi, il y a une certaine ambivalence sexuelle aussi. Tu sais, c'est dans les premiers films aussi, je dirais, en tout cas au niveau de l'horreur, où on va toucher l'homosexualité. Puis c'est un thème qui s'est souvent, je dirais, comme on a souvent retrouvé là, dans les films de Hammer, Vampires Lovers.
Oui.
C'est un exemple, justement, là, où l'homosexualité va être abordée. Puis même quand on remonte, là, je dirais, dans le temps, le premier film là, qui va vraiment, je dirais, avoir une scène où qu'on pourrait qualifier là, à forte tension homosexuelle, c'est Dracula's Daughter, où la fille de Dracula va séduire une autre femme. Puis c'est quand même assez innovateur, là, parce que bon, on se ramène, on est à peu près dans les années 30, si ma mémoire est bonne.
Fin des années 30.
Fin des années 30, donc, tu sais, c'était quand même assez novateur. Ce qui fait, comme je dis, là, que ce thème-là va être beaucoup aussi présent, là, dans l'ambivalence sexuelle, va faire aussi partie, je dirais, un peu de l'ADN du vampirisme au cours de l'histoire du cinéma, là.
On peut pas parler de vampires sans parler des figures historiques, donc des gens qui ont vécu pour vrai, qui sont associés un peu à ce mythe-là. On va parler de Vlad Tepes, qui était celui dans lequel Bram Stoker s'est inspiré pour écrire Dracula, qui était un dirigeant roumain en Transylvanie, etc. Vlad l'Empaleur. Et Elizabeth Báthory. Commençons par Vlad Tepes.
Oui, bon, il est né en 1431, puis comme tu le dis, bon, c'est un Vlad, le troisième du nom, son père Vlad Dracul, lui Vlad Tepes, et il était connu en fait pour sa cruauté. Là. Bon, il y a plusieurs histoires, là, je dirais, bon, qu'on rapporte. Je les qualifierais peut-être pas d'amusantes, mais en tout cas, ils sont surprenantes. Bon, une entre autres, là, où je sais pas pour quelle raison, mais deux moines, c'était un peu, je dirais, l'avait pris du mauvais bord, puis il avait décidé en fait de les empaler. Puis comme leur âne semblait protester, ils ont parlé aussi. Après ça, il y a des histoires un peu, bon, où trois messagers sont arrivés avec des turbans puis refusaient d'enlever leur turban là, pour des raisons tradition. Fait qu'ils ont finalement cloué le turban sur leur tête en disant « Mais maintenant, vous allez avoir au moins l'opportunité de toujours le garder. » Fait que, puis on a une peinture, entre autres, là, où tu l'as probablement vu, où on le voit manger là, avec une série de gens empalés. Fait que c'est comme on dirait un peu le premier grand méchant de l'histoire. Là.
Ben, puis aussi, politiquement, on l'associe beaucoup au début de la guerre psychologique parce que quand les armées arrivaient, ils devaient traverser des champs de gens empalés. Ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, ces gens-là étaient empalés puis ils étaient déjà morts quand ils les empalaient, mais ça faisait un effet psychologique hallucinant sur les armées adverses. parce qu'il faisait peur, tu sais, il encourageait puis il nourrissait en fait là, cette image-là de tyran violent. Là.
Tout à fait, puis au niveau justement du parles de guerre psychologique, je veux dire, il n'y a rien de pire pour saper le moral des troupes que d'avancer avec une atmosphère comme ça. Là. Fait qu'effectivement, tu sais, on est dans les premiers temps de la guerre psychologique. Là. Fait que ce personnage-là, en fait, va beaucoup être influencé au point que le nom va être récupéré par Bram Stoker. Puis, ça aussi, ça fait partie un peu de la genèse, c'est-à-dire que si on regarde, bon, dans le début des films de vampires, on est souvent dans la noblesse. Mm-hmm. Et c'est souvent un conte où, on est plutôt dans le conte, là, à un moment donné. Mais tu sais, si on regarde aussi au niveau, je dirais même, de l'analogie, en fait, le noble qui siphonne le peuple, là, je veux dire, il ne faut pas aller chercher très loin pour voir un parallèle.
Ouais, ouais.
Mais le côté aristocrate aussi fait partie un peu de la mythologie du vampire. Non?
Ici, on parle d'Elizabeth Bathory.
Ben, en fait, effectivement, ça, c'est, je dirais, le deuxième pendant historique, là, le deuxième personnage important. Puis on va en parler peut-être plus à fond là, dans notre prochain épisode, en fait, où on va se concentrer davantage sur ce personnage-là. Mais c'est un personnage quand même, je dirais, bon, qui a le triste record là, d'avoir tué 650 personnes selon les références.
Oui.
Il fait partie d'ailleurs dans le livre Guinness des records pour ce triste, je dirais, record. Mais elle aussi là, va influencer.
Ça, c'était pour se baigner, se faire des bains dans le sang.
Oui, c'est ce que la légende dit, mais au niveau de son procès, écoute, on est dans une série de sévices. Là,
oui, beaucoup. Moi, je suis allé aussi dans son château, qui est aussi en Slovaquie, par hasard. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'elle, elle les a toutes tuées dans son espèce de château. Et quand, à la fin de son procès, on l'a accusée, on l'a mis en accusation, on l'a emmurée à l'intérieur de son château. Donc, on peut aller voir d'ailleurs où elle est emmurée. Là, il y a un trou dans le mur. C'est une histoire horrible pour elle et pour tout ce qu'elle a fait.
Tout à fait. Là. Puis bon, tu sais, si on regarde au niveau historique, là, comme je dis, les rumeurs, là, on est à peu près dans les années 1602, en fait, lorsqu'elle a à peu près la quarantaine d'années. Ce que ça nous dit, c'est que la quarantaine, c'est une crise assez importante pour elle. Parce que c'est à partir des années 1602 là, que les rumeurs vont commencer à arriver qu'il se passe quelque chose. Puis son procès, je pense, c'est en 1610. Là. Mais donc, ça aussi, ce personnage-là va influencer aussi le film de vampire. Là. On a ça, par exemple, dans Daughters of Darkness, là, qu'on va aborder dans un autre épisode. Puis, on a des films aussi qui vont beaucoup s'utiliser ce personnage-là. Countess Dracula, par exemple, va être un autre film de la Hammer là, où on va utiliser ce personnage-là. Là.
Donc, c'est un personnage qui est quand même assez important. On dit que le vampire, on en a parlé, là, ça oscille entre la peur, la séduction. C'est quoi, toi, que tu suggérerais pour quelqu'un qui veut écouter des films et qui veut voir un peu les deux pans, là, les deux facettes du vampire?
Ben, tu sais, dans le pôle, appelons ça plus horrifique, je pense que, bon, Nosferatu, je trouve, pour un film, encore une fois, en noir et blanc, muet, c'est un film qui est, à mon avis, encore très solide.
Oui.
Il y a un film aussi, bon, peut-être moins bien connu, mais que je trouve qui est le fun de voir, peut-être côte à côte, Shadow of the Vampires, qui est un film, en fait, qui se passe autour du tournage du film là, de 1922. Puis en fait, bon, l'histoire en gros, c'est qu'on a l'impression que l'acteur qui joue le Nosferatu est un acteur, mais en fait, le réalisateur aurait engagé un vrai vampire. C'est un film une certaine lenteur, mais en tout cas, qui a malheureusement, je pense, pas poigné tant que ça, mais qui est intéressant à voir à ce niveau-là.
C'est vrai.
Puis dans le même genre d'esthétique, là, on a aussi une série télé là, que Toby Hooper avait réalisée, Salem's Lot.
Oui.
Super intéressante aussi. Là. Ça, c'est une belle adaptation. On est vraiment dans le vampire. Bon, ça a été aussi écrit par Stephen King. Là. Une belle, je dirais, dans l'angle là, horreur le pur. Là, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être un coup de cœur, là, je dirais, qui n'est pas nécessairement dans le pôle horrifique, mais que moi, je trouve que c'est un film qui est d'un équilibre. Là, bon, peut-être pas parfait, mais on n'en est pas loin. Fright Night.
Ah oui. Quel bon film. Ah,
écoute,
un film d'ado, mais c'est un excellent film de vampire.
Hey, c'est excellent, puis les personnages ont une profondeur, je dirais, qu'on n'a pas tendance à percevoir d'un premier temps. Tu sais, par exemple, le Tom Holland, le réalisateur, puis l'écrivain aussi du scénario, c'est basé sur Pierre et le Loup.
OK.
Puis quand on voit ça, c'est évident, là, le garçon qui crie au loup, tu sais. Mais tu sais, par exemple, prenons Peter Vincent, là, donc le chasseur de vampires, en fait, qui dans l'histoire est un acteur qui joue un tueur de vampires.
Qui est joué par Roddy McDowall.
Qui est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Puis, tu sais, en fait, il y a même un hommage en sens, parce que Peter, c'était pour Peter Cushing qui jouait Van Helsing dans le premier Dracula, le Harv Dracula de la Hammer, puis Vincent Price. Puis d'ailleurs, Vincent Price a été aussi approché pour jouer Peter Vincent, qui aurait été sûrement excellent, mais Roddy McDowall est génial. Et même, comment il s'appelle, Charlie Sheen a été aussi approché pour jouer le personnage principal, mais bon, le réalisateur trouvait qu'il y a quelque chose qui ne cliquait pas. Mais, tu sais, par exemple, revenons à Peter Vincent, ce qui est intéressant comme personnage, c'est qu'on voit, il se présente comme étant un chasseur de vampires courageux qui est en fait, je dirais, terrorisé la plupart du temps du film, réussit à trouver son courage. Puis, il y a toujours un espèce de, je dirais, de tension entre deux éléments dans chacun des personnages. C'est un autre film, lorsqu'on parlait aussi d'homosexualité, où elle n'est pas évidente, mais Jared Andridge, le vampire, et on sent une certaine, je dirais, ambivalence sexuelle qui est aussi intéressante. Puis, ce tournage-là était aussi, je dirais, remarqué parce qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui jouaient dans le film qui étaient homosexuels. Puis le réalisateur disait que c'était pas nécessairement un choix prémédité, mais que ça a teinté aussi une certaine sensibilité au niveau des personnages. Fait que Fright Night, je dirais, c'est un incontournable là, à voir pour plein de bonnes raisons.
Puis du côté plus romantique, là, où on est comme le vampire séducteur.
Ouais, là, bon, tu sais, on pourrait y aller avec Twilight, mais c'est pas une recommandation tout à fait personnelle, mais je veux dire, si on veut aller au bout du bout, là, où on peut se rendre, bon, il y a ça. Lestat Vampire.
Oui,
avec
ben oui,
Tom Cruise et Brad Pitt.
Interview with a Vampire.
Oui, c'est effectivement, là, je me Dan réfère Rice. Plutôt au roman. Là, ouais. Mais donc, Interview with a Vampire, qui est, je dirais aussi, un bel exemple là, du côté vampire romantique, mais aussi, je dirais aussi, le poids de l'immortalité. Ça, c'est un élément, je pense, que le film a réussi à amener. Que, tu sais, bon, au-delà du côté, je dirais, relativement à ce qui semblerait agréable là, de vivre éternellement, il y a aussi quelque chose, à un moment donné, qui se perd, là, une espèce de... Il n'y a plus l'attrait de la nouveauté, l'usure du temps. Ça, je pense que c'est un élément qu'ils ont réussi à bien amener. Dans les films aussi, je dirais, qui vont amener comme quelque chose de différent, Lost Boy.
Oui, ben oui. Génération perdue.
Lost Boy est intéressant parce qu'on a amené, je dirais, justement, le côté l'immortalité comme étant quelque chose d'extrêmement viable. Là. C'est sexe, drogue et rock'n'roll. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'un sort très, très lourd à porter là, dans ce film-là.
Non, c'est ça.
Puis on a aussi, là, je ne sais pas si tu te rappelles, ramené aussi le chasseur de vampires, non pas comme un vieux docteur, mais comme une bande de trois jeunes qui lisent des bandes dessinées, qui ont un magasin de BD. Fait qu'on a comme on s'est beaucoup permis, je pense, de s'amuser là, avec Lost Boy. Ça, je pense que c'est un film aussi qui sera à voir à ce niveau-là. Là.
Est-ce qu'à un moment donné, on a tenté de moderniser le genre, de l'amener au-delà du gothisme ou de tu sais, c'est souvent associé à ce courant-là, j'ai l'impression, avec les châteaux. Est-ce qu'on a essayé de moderniser le mythe du vampire?
Oui, ben tu sais, je pense que ça a été un défi aussi souvent là, de je dirais de s'inspirer de la tradition, mais en même temps de la briser pour l'amener au goût du jour. Tu sais, bon, un film qui me vient en tête, là, Vamp, avec Grace Jones en 1987, qui se passe dans un bar de danseuse, puis... T'sais, on voulait justement, je pense, déplacer le mythe du vampire au dehors du château.
From Dusk Till Dawn.
Exactement, c'est ce que j'allais nommer. Où on a même, je dirais, changé le. Bon, on est souvent. Le vampire est associé à la chauve-souris. Mais dans ce cas-ci, on l'associe davantage au serpent, au côté reptilien. Puis, je trouve que ce qui est intéressant aussi, on l'a amené complètement dans le désert où il fait soleil. Je pense qu'on a beaucoup joué avec justement là, les contrastes, puis ça fait un film qui est très intéressant.
Bien, surtout au niveau de la narration, parce que quelqu'un qui ne sait pas que c'est un film de vampire, il passe une heure avant de le réaliser, parce qu'on est un peu plus dans un trailer, un drame, un trailer psychologique d'action. Puis quand maintenant on réalise, attends, là, ça fait une heure que je suis dans un film de vampire, puis je le sais pas. Là, avec, ouais, puis il y a un beau casting aussi dans ce film-là. Là,
Tom Savini, entre autres, qui
joue là-dedans. Tom Savini, George Clooney, on a Martin Cheech, on a...
Robert Rodriguez puis Tarantino, là, sont, ben, d'ailleurs, c'est Tarantino qui l'a produit, là, Robert Rodriguez qui l'a réalisé. Ouais. Ces deux cinéastes, je pense qu'ils partagent beaucoup les mêmes références, qui s'amusent beaucoup avec aussi le genre. Puis ça paraît, là, clairement, on a des gens qui s'amusent dans ce film-là.
Ouais. Est-ce que c'est un genre qui peut, je sais pas, dépérir, tu penses? Parce que, tu sais, oui, quand je pense à des compagnies comme, mettons, la Hammer, on produit beaucoup de films. À un moment donné, la Hammer a suscité moins d'intérêt. Est-ce que c'est quelque chose qui. Ou ça risque de revenir? Je pense que ça risque de revenir.
Je pense que c'est cyclique, là. Effectivement. Là, tu sais, par exemple, bon, il y a eu une vague importante dans les années 90. Là, tu te rappelles aussi, bon, on n'est pas dans le cinéma, mais dans les jeux de rôle, il y avait le Vampire the Masquerade qui était. Ouais. Bon, on connaissait à l'époque Donjons et Dragons, mais là, on tombe vraiment dans le personnage. Vous pouvez maintenant jouer un vampire. Ça a amené une vague, une popularité vraiment importante. Il y a eu beaucoup encore de films, il y a eu beaucoup de romans. Mais tu sais, comme toutes les vagues, il y a un essoufflement à un moment donné. L'essoufflement du vampire a donné naissance, je dirais, à l'engouement pour le film de zombies. Là, on est dans la fin, à mon avis, de la vague du film de zombies. Là,
vraiment,
on commence à s'essouffler un peu. Bon, il y a eu un recrudescence, je dirais, du vampire romantique avec Twilight, mais tu sais, je dirais pour les plus fans d'horreur, là, ça a probablement aussi, je dirais pas brûler le genre pour un bout, mais tu sais, la surexposition typiquement va amener après ça une espèce de période où on l'oublie.
Mais c'est parce que c'est avec un mythe aussi qui date depuis aussi longtemps où il y a eu autant de films, c'est fondamentalement très difficile de se renouveler. Mm-hmm. Pour pas arriver, parce qu'il y a des codes, les gens vont s'attendre à certains codes. Puis là, si tu dépasses, il faut voir que tu sois bon, puis de justifier que c'est encore un film de vampire.
Tout à fait. T'sais, encore une fois, on va assister souvent à une période de dormance qui fait que, bon, les. Ben, faut dire aussi, on a déjà dit ça, mais dans le cinéma, il y a deux types presque de cinéphiles. Il y a les cinéphiles qui ça va pas les énerver d'écouter un film des années 60-70 qui vont avoir un répertoire assez vaste. Puis tu as ceux que c'est, je dirais, de sortie en sortie. Fait que si vous êtes sur une période de 5-10 ans où il y a peu de films de vampires, puis qu'on en commence à en produire, votre imaginaire, dans ce cas-là, est relativement, je dirais, vierge, là, prêt. Ouais. Fait que là, vous découvrez quelque chose. Bon, pour les plus, appelons ça, purs et durs, effectivement, c'est plus dur de se réinventer. Mais je pense qu'on assiste vraiment dans le vampire en des périodes, pour pas faire de mauvais jeu de mots, de sommeil et d'éveil. Là.
Ouais.
Mais qu'on connaît moins quand même dans d'autres styles. T'sais, par exemple, bon, prenons le loup-garou. T'sais, on a eu, dans les années 80, bon, quelques films marquants, mais c'est épisodiquement, on pourrait dire que le loup-garou...
On a un film qui sort, on a eu Dog Soldier dans les années 2000, on
exactement.
A eu bon, le loup-garou de Londres.
Mais de dire vraiment qu'on a un monstre qui, de façon, je dirais presque steady, va nous amener à avoir des films, on n'a pas nécessairement ça. Film de fantôme, on est un peu plus là-dedans quand même, où je dirais, de façon générale, on va souvent avoir un film qui va sortir. Mais le vampire, c'est je le vois beaucoup par vague. Là.
Okay. Hey, merci Jimmy, c'était très intéressant. C'est tellement intéressant qu'on va continuer la semaine prochaine. On va s'attarder à un film, Daughter of Darkness.
Excellent.
Ne manquez pas ça, vous allez comprendre pourquoi. Une entrevue exclusive à vous proposer. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez des suggestions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à videoterreur@hotmail.com. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.
Vidéo Terreur est une réalisation de Jean-François Bourbeau, animée par Pierre Turcotte et Jimmy Francoeur. La captation vidéo et sonore a été réalisée par Luc Paul et Jean-François Bourbeau. L'ambiance sonore est une création de Jean-François Bourbeau. Coordination Andréane Bouchard. Pour nous rejoindre, videoterreur@hotmail.com.
Ce balado est produit en collaboration avec la Télé-Duo du Lac.